franceinter.com. La librairie francophone, Emmanuel Kayrade.
Ce tout monde, c'est le monde tel que nous désirons qu'il soit et tel qu'il n'est pas encore. C'est-à-dire le monde qu'on partage, le monde où les différences sont acceptées, où on ne réduit pas la diversité à un banal enfermement.
Bonjour à tous, c'était une grande personnalité de la littérature antillaise, un héritier de Césaire et Senghor. Édouard Glissant nous a quittés cette semaine à l'âge de 82 ans. Nous l'avions reçu dans cette émission en mars 2010 pour une interview exceptionnelle autour de la poésie, de ses engagements et de la créolité, un concept fondateur qu'il aura porté toute sa vie. Nous réentendrons Édouard Glissant dans cet entretien avec le témoignage de Jean-Marie Gustave Le Clézio. Le prix Nobel de littérature a choisi la librairie francophone pour lui rendre hommage. Nous serons en duplex de Los Angeles pour ce témoignage exclusif. Et puis nous dédions bien sûr cette émission à tous les créoles qui nous écoutent, disséminés à travers le monde. Dans quelques instants, nous partirons dans le domaine des saveurs avec l'écrivaine française Chantal Pelletier. Que devient-on lorsque l'on perd le sens du goût? C'est l'une des questions que nous poserons. Et puis il sera question du petit monde de la littérature avec l'auteur suisse Jacques-Étienne Bovard. Trois écrivains sont invités à un événement francophone, trois romanciers de gare qui affrontent la grande, la vraie littérature. Un bras de fer décrit sur le ton de l'humour et de la réflexion. Vous le savez, ce programme est diffusé par les ondes sur trois continents, en Suisse sur la première chaîne de la radio suisse romande, en Belgique sur la première chaîne de la RTBF, en Afrique et dans toute l'Europe avec RTBF International, au Canada sur la première chaîne de Radio-Canada, sur le continent américain avec la radio numérique Sirius, en France et dans les départements d'outre-mer sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kayrade.
Et on passe à la chronique de nos libraires. Chaque semaine, nous parlons avec eux de toutes les catégories de livres. On commence avec la Belgique et Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Et on démarre avec la bande dessinée après notre escapade à Angoulême. Vous allez nous parler d'une nouvelle BD.
Oui, La Garden Party. Alors peut-être que ce titre vous dit quelque chose. Eh bien c'est normal parce que c'est une des nouvelles les plus connues de Catherine Mansfield. Et l'illustrateur Thierry Bouard, il a mis tout son talent pour la transposer à notre époque. Alors ces illustrations s'enchaînent entre ses pieds et couleurs. Parfois, les visages restent flous alors que les décors sont ancrés, comme pour représenter la fragilité des personnages face à leur environnement. Et il a réussi là un roman graphique impressionnant qui, plus qu'une bande dessinée, est une vraie réflexion implacable sur le monde dans lequel on vit.
Et il y a de quoi dire, effectivement. La Garden Party aux éditions Cadran, c'est cela ?
C'est exactement ça.
Merci beaucoup Déborah. Bonjour Agnès Gatef.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Tout va bien.
Vous êtes libraire à Marseille, cette magnifique ville du sud de la France, dans la librairie L'Attrape-Mot, rue Paradis. Et cette semaine, vous nous présentez une nouveauté littéraire d'un auteur ami de cette émission et qui marque malheureusement un triste anniversaire.
Et oui, je vais vous parler de Daniela Ferrière, qui en fait, il y a presque un an, était le 12 janvier à Port-au-Prince au moment du séisme, et tout de suite il a commencé à écrire, il dit, pour ne pas céder à la panique.
Oui, oui.
Et aujourd'hui il nous livre, il nous restitue ses textes écrits dans l'urgence. Ce sont des textes courts, moi je l'aime quand il fait comme ça des formats, alors c'est pas vraiment un roman, c'est des choses jetées sur la feuille. Ce sont des textes pudiques, très intenses, dans lesquels on a l'impression qu'il est dans un état de sidération, où il se dit, mon Dieu, je suis vivant. Et puis au-delà de ça, dans ce texte, transparaît la dignité et le courage de ce peuple qui force l'admiration.
Daniela Ferrière, oui.
Chez Grasset. Tout bouge autour de moi.
J'allais le dire. Parfait. Vous faites mon travail, c'est parfait. Restez comme ça. Merci Agnès. Tout à l'heure, nous irons au Canada et en Suisse avec Manon Trépanier de la librairie À lire à Longueuil et avec Josiane Perret de la librairie Les Yeux Fertiles à Lausanne. Bonjour à vous deux.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
On parlera de la capitale française avec vous Manon. Quel moustique vous a piqué?
Ben, êtes-vous conscient Emmanuel de la chance que vous avez de vivre à Paris?
Oui, en partie, c'est vrai. Oui, oui. Mais Montréal est magnifique aussi. Hein. Bon, vous restez en tout cas avec nous tous les quatre pour intervenir tout au long de cette émission avec nos invités. Avant de parler cuisine et saveurs avec le roman de Chantal Pelletier, on écoute le dernier titre de Françoise Hardy. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Enchaîné rouge et noir. l'autre côté du ciel. Une force inconnue vous attire, vous dépossède des peurs, des désirs. Mystère de la brèche entre les mondes, où les particules et les ondes sont régies par des lois nouvelles. De ce côté du ciel, soudain propulsé hors de terre, de la lumière. Vous n'êtes qu'une bille, un point compact, ignorant la cible et l'impact dans l'infini surnaturel. De ce côté du ciel, mais voilà que tout s'accélère. Anodine, ni main tendue, ni fourche codine, plus de solo, plus de duel. De ce côté du ciel, ou bien déflagration anodine, ni main tendue, ni fourche codine, plus de solo, plus de duel. De ce côté du ciel.
Françoise Hardy, l'autre côté du monde, sur Radio-Canada, la radio suisse romande, la RTBF et sur France Inter.
La librairie francophone.
Pascaline d'Omble Chevalier, fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar.
Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995.
Pigeon gautier rôti entier puis terminé à étouffer dans un poivron rouge.
Le bisque soufflé à la chartreuse. Trois petites pâtisseries célestes.
Emmanuel Kérade.
Bonjour Chantal Pelletier.
On salive, hein.
C'est pas mal, non? Ouais. C'est une musique d'Aston Villa, en fait, qui avait composé comme cela des recettes avec d'autres artistes. Mmh. Vous êtes une écrivaine et scénariste française. Vous venez de publier De bouche à bouche aux éditions Joël Losfeld. Vous nous entraînez dans un monde de saveurs. Votre personnage a perdu le sens du goût suite à un accident de voiture. Elle est photographe, un peu centrée sur elle-même. Et le jour où elle découvre ce handicap, elle dit « ma bouche était morte ». Que devient-on lorsque l'on perd le goût, Chantal ?
Je crois qu'on perd plus que le goût, on perd ses repères. J'ai l'impression même qu'on perd contact avec les autres parce qu'on se sent isolé. Parce que je crois que ça coupe beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges autour de la nourriture, qui est quand même une chose de partage. Donc c'est un peu la métaphore de quelqu'un qui doit aller à la recherche des autres. Quoi.
En tout cas, c'est vrai que c'est un vrai supplice pour elle. On a en tout cas tous expérimenté ce manque de goût lors d'un gros rhume, par exemple. C'est très désagréable. Lorsque l'on mange, on ne ressent rien, juste la texture. Et elle, heureusement, elle a conservé l'odorat.
Oui, ce qui est très important, parce qu'en général, quand on a un rhume, on perd l'odorat.
Plus,
donc,
ouais.
Du coup, on perd en partie le goût.
C'est
donc,
pire.
Elle, il lui reste beaucoup de choses, donc, notamment l'odorat. Et puis, tous les autres sens. En fait, elle apprend à compenser d'une certaine façon par le regard. La vue est très importante dans le goût, puisqu'on peut vraiment faire des erreurs à des grands spécialistes en mettant un petit peu de colorant vert, par exemple, dans un vin blanc. On le trouve tout d'un coup plus acide, alors qu'il n'a pas changé de goût.
Exactement. Alors, elle refuse d'admettre tout ça, et pour cause, elle est un peu perturbée. Elle se sauve. Elle quitte complètement son cocon et elle décide de partir un jour. Elle se retrouve sur un marché, quelque part dans le monde. Elle rencontre un préadolescent diabétique et elle décide de s'initier à la cuisine, de s'occuper de lui en lui préparant des plats, un peu comme si à travers ses sensations gustatives à lui, elle retrouvait le goût.
Oui, je pense que c'est l'idée que c'est par les autres, finalement, qu'on éprouve le plus de plaisir. C'est en fabriquant le plaisir des autres qu'on est le plus heureux. Je crois que quand on cuisine pour les autres, on est plus préoccupé de savoir ce que les convives vont penser plutôt que de savoir si on apprécie ce qu'on a dans son assiette. Et voilà, donc c'est un peu cette idée que si on passe pas par la générosité, finalement, on est privé de l'essentiel. Moi, je tenais absolument à montrer un monde dont la culture, dont l'identité apparaissait par la nourriture. En fait, parce qu'on n'y a jamais aucun nom, il y a très très peu de descriptions des pays que je traverse, mais on devine où on est en fonction des produits, de la nourriture, de ce qu'on mange. Et je pense que tout le monde a éprouvé ça. C'est-à-dire, on est dans une planète mondialisée, mais malgré tout, la nourriture est encore différente d'un pays à l'autre, marque une identité, marque une culture, et c'est très important.
Mais c'est une façon pour vous de dire que la cuisine, elle est universelle, c'est cela ?
Oui, elle est universelle parce qu'à la fois, elle marque l'identité de chaque pays et à la fois, c'est l'ancêtre de la mondialisation parce que serions-nous, que mangerions-nous aujourd'hui si tous les produits ne venaient pas d'ailleurs ?
Moi, c'est le croisement, effectivement,
voilà,
des
exactement,
cultures.
Exactement, c'est à la fois l'identité, le métissage, c'est-à-dire c'est vraiment...
Le métissage commence par la cuisine, d'ailleurs.
Absolument, c'est vraiment l'ancêtre.
Déborah, pour la Belgique, vous voulez poser une question à Chantal Pelletier.
Voilà. À un moment, vous faites dire à votre personnage que se consacrer au sacrement de la nourriture lui était une évidence, comme Thérèse d'Avila avec Jésus. Et je me demandais si pour vous, la bonne cuisine atteint-elle toujours une dimension mystique ?
Chantal Pelletier.
Non, pas toujours, parce que moi, je suis vraiment une cuisinière de tous les jours, etc. Mais je pense que c'est une des rencontres que fait mon héroïne, c'est-à-dire à un moment, elle est dans un pays, par exemple, où il y a une sacralisation de la nourriture, des rituels et tout ça. Et je crois qu'on connaît tout ça dans nos manières de table et nos habitudes sont extrêmement réglementées, finalement. Et donc, il y a toujours l'idée d'un sacrement.
Vous parlez de Thérèse d'Avila. Alors, c'est une sainte catholique, réformatrice monastique, qui inspira aussi Paul Verlaine. Paul Verlaine qui l'a présentée comme une femme de génie. Et elle aurait dit « Nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps oui. ». Et dans votre roman, Chantal, du monde des saveurs culinaires, on passe au monde des saveurs sexuelles. Mm-hmm. Quel lien établissez-vous entre les deux ? Il n'y a pas de distinction entre les plaisirs de la chair ?
Un petit peu, parce que de toute façon, d'abord l'érotisme et la gastronomie ont toujours été liés. Mais moi, je montre finalement un monde assez désincarné, avec des relations entre les personnes qui sont vraiment très instables, très chaotiques, entre les parents et les enfants, dans les couples, enfin, etc. Des mères qui disparaissent, des pères qui ne font pas leur travail, enfin, bon, etc. Qui bon, correspond un peu à notre monde contemporain avec l'éclatement des familles. Mais il reste que nous sommes malgré tout encore des corps, des animaux, etc., lorsque nous mangeons, lorsque nous faisons l'amour. Et pour moi, la langue, c'est vraiment quelque chose qui doit être incarné. Et mon plaisir d'écriture, oui. Il passe par la langue. Et par la langue, c'est-à-dire ce que je dis toujours, c'est-à-dire que les mots et les mets, c'est du même royaume, c'est celui de la bouche. Ouais. Et quand c'est vrai que mon roman s'appelle De bouche à bouche, parce qu'il y a aussi l'idée que les mots sont dans la bouche, qu'on a envie de les mâcher, de les sentir vraiment dans la bouche, de les faire rouler contre le palais, comme ça. Et pour moi, c'est extrêmement important. Évidemment, il y a aussi l'idée de sauvetage. Vous disiez tout à l'heure qu'elle se sauve, mais elle se sauve à la fois, elle s'enfuit et aussi elle sauve sa peau.
Et vous écrivez, les arômes touchent au sexe qu'aucune bonne cuisine ne manque d'évoquer. Josiane, pour la Suisse, que pensez-vous de ce roman ?
De mon côté, malgré les évocations tout à fait suggestives, de nourriture et autres menus raffinés, je suis restée sur ma faim. Quant au récit lui-même, l'eau m'est venue à la bouche, mais je n'ai pas été rassasiée par ce texte, et je pourrais longtemps continuer ainsi dans les images, parce que ce texte n'est constitué que de ça, et de jeux de mots, beaucoup trop à mon goût, et c'est dommage, parce que moi je trouvais l'idée de base assez jolie.
Alors Manon, pour le Canada, vous voulez intervenir, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Oh non Emmanuel, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu, et je trouve qu'il réunit beaucoup de conditions gagnantes pour plaire au plus grand nombre de lecteurs possible, soit la gastronomie, l'art, les voyages, la quête de soi, la psychanalyse aussi. C'est un livre qui donne faim, là. Et qui aborde aussi une espèce de façon de se réconcilier avec soi-même et avec la vie. Mais il y a quelque chose qui m'a énormément intriguée, c'est la relation entre le père et la fille que j'ai trouvée très malsaine. Chantal Pelletier, est-ce que c'est un Œdipe mal réglé ou est-ce que le père ici représente quelque chose d'autre?
Alors, il faut juste souligner qu'elle n'a aucune affection pour son père, aucune considération, alors qu'il s'est s'occuper d'elle depuis toujours. Elle a été abandonnée par sa mère, c'est son père qui a pris le relais, et même après l'accident, même s'il est un peu fautif, il est quand même aux côtés d'elle.
En fait, ce couple père-fille m'est venu de choses que je vois beaucoup autour de moi dans les couples séparés avec les gardes alternés et tout ça, où on a l'impression que l'enfant et le parent forment un couple et qu'il y a une sorte de mélange entre enfant et conjoint. Je joue aussi d'ailleurs de ça dans les rapports qu'elle a ensuite avec ce jeune adolescent où il n'y a aucune même ambiguïté sexuelle. Mais
alors,
excusez-moi,
je vous arrête parce que là vous en parlez et c'est une des choses qui m'a dérangé. Il y a deux choses choquantes dans votre livre. C'est ce rapport dont parlait Manon avec son père, mais aussi cette relation qu'elle a avec ce préadolescent. Vous parlez de couple, elle évoque même la prison, elle est amoureuse de lui, elle dit, et elle est franchement sur le fil de la pédophilie à un moment.
Voilà, mais en fait, rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est-à-dire, elle dit qu'elle n'aime pas les enfants, etc. Et en fait, elle va découvrir cet enfant qui est un enfant très particulier, qui est malade, donc qui a une maturité exceptionnelle, etc. Et donc, elle va l'aimer, mais en tout bien, tout honneur, sans ambiguïté. Sauf que moi, je joue de cette ambiguïté avec la langue, en passant d'un paragraphe à l'autre, en interrogeant le lecteur finalement sur ce rapport-là, mais sans fournir d'image.
Mais cet adolescent, pourquoi cette image l'a séduit à ce point-là ?
Parce que c'est lui qui va d'une certaine façon faire son éducation. Elle peut l'accepter de sa part parce que il n'est pas une image paternelle et que donc elle peut jouer à la fois à être la mère qu'elle n'a pas eue et être quelqu'un
femme
qui l'accepte.
C'est un peu limite, hein. Non mais sérieux, hein, vraiment. Mais je dis pas que vous dites cela, hein, juste dans l'histoire, ce personnage est un peu limite de ce côté-là. Agnès pour la France, qu'en pensez-vous ?
C'est peut-être ça qui fait l'ambiguïté qu'on peut avoir dans le rapport au texte. Moi j'ai trouvé votre ton décalé au départ, ça m'a séduite. J'ai beaucoup aimé l'écriture que je trouve riche, sensuelle. En lisant, je me prêtais à étudier mes sens tout en lisant le rapport entre le goût, l'odorat. Et puis, en fait, sur la deuxième partie, je pense que toute cette ambiguïté-là, je trouve qu'il y a plein de choses évoquées. Et la résolution, en fait, la fin m'a laissé un petit peu sur le bord. Parce que je pense que vous évoquez plein de choses et que tout est résolu de manière très, très rapide. Et plus cette ambiguïté-là qui peut être gênante.
Effectivement, il y a plein de réflexions que vous portez comme cela. C'est très intéressant sur le fond. On a envie d'aller plus loin, hein, effectivement. Et elle va plus loin, cette femme-là, puisqu'elle s'émancipe, on le disait. Mais d'une certaine façon, quand elle découvre les plaisirs des saveurs, à travers les autres notamment, la force de cette cuisine-là, c'est à ce moment-là qu'elle va s'ouvrir au monde. Et c'est cela l'intérêt du livre, c'est-à-dire que c'est un parcours initiatique.
Absolument. C'est un parcours initiatique, c'est la découverte d'elle-même, la découverte des autres, la découverte du monde, tout en même temps, en fait.
Alors on va terminer avec cette phrase, Chantal, que vous écrivez vers la fin du roman. « Le bonheur a peu d'avenir, mais le malheur a des fêlures qui laissent parfois passer le jour. » Et c'est exactement ce que l'on ressent en lisant votre livre, et ça nous renvoie à notre condition. Merci beaucoup, Chantal Pelletier.
Merci.
De bouche à bouche est publié aux éditions Joël Losfeld, un roman sensuel, charnel et épicé, qui donne au passage quelques idées recettes, comme ça, quelques pistes qui peuvent inspirer vos créations culinaires. C'est assez malin et plutôt bien fait. Merci, Chantal. Dans un instant, nous rendrons hommage au grand poète et écrivain créole Édouard Glissant, qui nous a quittés cette semaine et qui endeuille la Martinique et plus largement les créoles du monde entier. Avant cela, on écoute une très belle chanson qui met en musique l'espoir et la fraternité. Voici Paris Bamako, un collectif qui regroupe M, Oxmo Puccino, Amadou et Mariam, Tiken Jaffa Coli et Kenan. Une chanson créée en 2006 au profit des jeunes aveugles du Mali. Bonne soirée ou bonne journée à travers le monde avec la librairie francophone.
Si noir, ce serait trop facile de croire à cette histoire. Tu n'es pas si blanc, tu n'es pas si noir. Mon cœur a la même couleur dans ton regard.
the sun goes down, music takes me to town. Heart is just where I go, feel it from your head to toe. Love is really all we know. Body to Bamako, 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 body. Say body to Bamako.
We just keep tucking, guitar keeps plucking, the melody stuck in your head like locking, the dread keeps clucking, the system I'm bucking them down like nothing, and so we unite, Barry to Bamako, universal fight, if you're causing strife in the name of right, you are neither black, you are neither white, hitting on a dusty for philosopher, stay right.
Barry Bamako, Barry Bamako, rencontre
le tissage, c'est le bonheur. Et y'en a marre des rues de Paris. C'est sens interdit, j'ai compris trop de choses, des connaissances interdites. Le froid tire tes orteils, ça klaxonne dans l'oreille et les gens se suivent, pas les jours en soleil. Je suis plus loin que l'espoir, même de l'autre côté. Mes pages ont plus de sens qu'un carrefour, écoutez, écoutez.
Nous allons vous raconter une histoire, des rencontres entre des gens pour aider.
En ombre à Paris, women à Bamako. Bamako.
Vive la solidarité entre tous les peuples.
Chacun de nous vaut un trio. Prix Bamako. Nobel, Pacifix, discours, c'est du sirop. Tentez de chanter pour changer le monde.
C'est le bonheur.
Merci.
Les Paris Bamako, c'est le bonheur sur les ondes de la Radio Suisse Romande, de Radio-Canada, de la RTBF et sur France Inter. Édouard Glissant nous a donc quitté cette semaine à l'âge de 82 ans, écrivain martiniquais majeur et inventif. Il donnera lui aussi, comme Césaire et Senghor, une dimension poétique à son œuvre. Théoricien de la créolisation, il ouvre sa pensée au monde. Selon lui, la créolisation a une dimension planétaire. La rencontre, le choc et les harmonies entre les cultures révèlent pour lui une réalité multiculturelle. Cela implique donc une identité plurielle en constante évolution et un refus de l'identité de souche. En cette année 2011, la France célèbre l'outre-mer. Tous les événements à venir pour mettre en lumière les diversités seront donc observés de près et de loin par cet humaniste lumineux. À chacun d'entre nous de se montrer digne de cet héritage et de cette réflexion portée par Édouard Glissant, avec notamment ces quelques mots. La notion de différence est entrée dans la pensée mondiale. La diversité a pénétré l'inconscient du monde. Les pays qui n'accepteront pas cela prendront sans doute beaucoup de retard.
Oh, pays, pur visage, mon noir pays, miroir brisé.
La librairie francophone,
drapé de plaies, nommez-les.
Emmanuel Kérad.
Et c'est un grand écrivain proche des créoles et de la littérature monde qui est avec nous depuis Los Angeles pour rendre hommage à Édouard Glissant. Bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans la librairie francophone. Alors en 2006, vous aviez publié Raga, un récit de voyageurs au Vanuatu, écrit à la demande d'Édouard Glissant. Qu'est-ce qu'il vous avait demandé de faire exactement ?
Oui, eh bien, il avait été chargé de diriger une collection qui était, je crois, organisée par l'Encyclopédie britannique. Et ça s'appelait Les Peuples de l'eau. Et le thème m'avait tout de suite intéressé. Il fallait choisir la destination et j'ai regardé l'endroit qui était le plus loin sur la planète. Et pour moi, c'était donc les Nouvelles-Hébrides, enfin Vanuatu. Et donc je suis allé, mais c'est grâce à Edouard que j'ai fait ce voyage et je lui en suis vraiment très reconnaissant.
Et c'était un rêve pour vous, vous aviez cela en commun, l'insularité, cette passion, cet amour pour les îles aussi.
Oui, oui, je crois que nous partagions vraiment ce sentiment que les îles, soit les îles du Pacifique, les Mascareignes, même peut-être certaines îles de la Méditerranée, sont des lieux privilégiés parce qu'elles ont reçu les invasions. Elles ont été maltraitées par l'histoire, donc elles ont développé cette science de la relation, puisque c'était le mot qu'Edouard Glissant aimait par-dessus tout.
Et quelles sont les valeurs alors que vous partagiez avec Edouard Glissant en dehors de cet amour pour les îles, Jean-Marie Gustave ?
Oui, c'était cette idée que, au fond, la relation, c'est-à-dire ce savoir vivre ensemble, cette nécessité de communiquer, d'échanger, c'était primordial si on veut qu'un jour, sur cette planète, il n'y ait plus la faim, il n'y ait plus la guerre, il n'y ait plus l'incompréhension. Et Edouard Glissant était un grand poète parce qu'il s'incarnait vraiment dans cette recherche. C'était quelqu'un qui était entier, comme d'autres poètes. C'était un vrai poète. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un, pour moi, qui était un ami, mais aussi une sorte d'image respectable, quelqu'un qui nous apprenait beaucoup, qui nous donnait beaucoup.
Et puis cet engagement aussi pour la littérature monde, la langue qui rassemble au-delà des clivages communautaires. On en parlait ensemble à Beyrouth il y a un an, mais Edouard Glissant était lui aussi dans cet esprit-là, évidemment.
Oui, parce qu'il pensait, je crois, que la poésie comme la langue créole avait 100 ans d'avance sur le langage que nous parlons chaque jour. C'est-à-dire qu'elle a déjà réalisé cet espoir de l'entente, cet espoir de l'échange et de la compréhension mutuelle. Et Edouard Glissant était quelqu'un aussi de très exigeant. C'est quelqu'un qui ne pratiquait pas une langue banale. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'importance aux mots. J'ai toujours pensé à lui comme à quelqu'un qui était de la grandeur de Wordsworth, le poète anglais, ou de Mahmoud Darwish, quelqu'un qui avait cette force incroyable qui faisait que il voyait au-delà de la quotidienneté, il voyait la réalité. Je crois que c'est quelqu'un qui va beaucoup manquer aux Martiniquais, beaucoup manquer aux Créoles, mais aussi à tout le monde.
Alors effectivement, vous parlez de Mahmoud Darwish. Selon Glissant, les Créoles et le monde caraïbe ont évidemment une réalité culturelle, mais aussi surtout une ouverture sur les autres cultures. Est-ce que vous pensez, Jean-Marie-Gustave Leclésio, comme Glissant, que le monde entier se créolise aujourd'hui ?
Je ne sais pas si créolisation c'est le bon mot, parce que la créolisation c'est un phénomène très particulier qui concerne uniquement les gens qui ont vécu cette expérience coloniale. Glissant a insisté beaucoup sur la douleur qu'ont connu les Antillais, qui est héritée de la traite et des mauvais traitements qu'on a fait subir à la population. Donc, plutôt que créolisation, moi, je pense que son idée du tout monde, c'est une idée merveilleuse. Parce que ça veut dire qu'on dépasse les clivages, on dépasse les frontières, on dépasse même ce sentiment national. Et pourtant, Glissant parlait beaucoup pour les Antillais, comme Césaire. C'est quelqu'un qui avait un message pour le peuple qu'il avait nourri. Il n'avait jamais oublié son origine, n'avait jamais cessé d'appartenir à ce qu'il décrit dans la Lézarde, cette petite rivière, ce monde très particulier et très restreint qu'est le monde antillais.
Alors justement, Jean-Marie-Gustave Leclésio, qu'est-ce que vous pensez de son parcours politique, son parcours de militant politique, militant anticolonialiste, très engagé ? Vous-même, vous dites qu'on ne peut trouver une seule raison de justifier le système colonial.
Oui, tout à fait. Glissant a été un grand militant. Et c'est quelqu'un qui a risqué la prison, c'est quelqu'un qui a côtoyé la protestation politique forte. Mais à un certain point, il l'avait dépassé, comme Césaire lui-même l'avait dépassé. C'est-à-dire qu'il voyait plus loin que les combats pour le pouvoir. Pour lui, c'était quelque chose qui devait se réaliser à l'échelle du monde et pas seulement à l'échelle des anciens pays coloniaux. Et donc le combat existait toujours pour lui, c'est certain. C'est quelqu'un qui n'avait pas perdu son mordant et son esprit critique.
Oui, oui, oui. Oui, on le voyait d'ailleurs l'année dernière quand on l'avait reçu dans cette émission. Édouard Glissant croyait en tout cas en la possibilité de bien vivre ensemble, quel que soit notre âge et notre pays. C'est ce qu'il nommait le tout monde. Vous en avez parlé, Jean-Marie Gustave. Quand un humaniste nous quitte, on a toujours cette impression que ses valeurs vont s'étioler comme ça au fil du temps. Il y a cette crainte sous-jacente. Est-ce que vous croyez en la relève et est-ce que vous inscrivez d'ailleurs dans cette relève-là ?
Parce que c'était une langue poétique, je pense qu'elle est durable et qu'elle n'est justement pas liée à l'actualité, elle n'est pas liée au débat que le commun des mortels vit chaque jour. Elle dépasse ce débat tout en s'y inscrivant, donc je crois que c'est une parole durable, c'est une parole magnifique. Et Édouard Glissant avait choisi d'écrire dans la langue française, il aurait pu écrire en créole, il avait choisi cette langue, c'est ce qu'il voulait réaliser, l'indépendance et en même temps l'inscription des Antilles, des pays créoles et des autres pays coloniaux dans un ensemble où il n'y a plus les échelles de valeurs qu'on connaît encore aujourd'hui, malheureusement.
Merci beaucoup Jean-Marie Gustave Leclésio d'avoir choisi la librairie francophone pour rendre hommage à Édouard Glissant. Merci infiniment Jean-Marie Gustave.
Oui, je voulais juste dire aussi à quel point mes pensées vont à Sylvie et aux enfants d'Édouard. C'est très triste ce qui est arrivé et j'ai beaucoup de tristesse et je voudrais exprimer cette compassion que j'ai pour sa famille.
Eh bien écoutez, on dédie ensemble évidemment cette émission à ses proches et à tous les créoles qui nous écoutent dans le monde entier. Merci Jean-Marie Gustave.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Je vous propose à présent d'entendre Édouard Glissant dans la librairie francophone. C'était en mars 2010 au Salon du Livre de Paris.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Édouard Glissant, vous êtes considéré comme l'un des plus grands écrivains francophones contemporains. Vous êtes né en Martinique en 1928 et toute votre vie, vous avez porté la créolisation, la mondialité et la poésie. Et vous dites que la poésie est la seule énergie capable de nous mettre en contact réel avec ce qui nous entoure.
Oui, parce que nous pouvons observer que dans le monde aujourd'hui, il y a ce que j'appelle des lieux communs, qui ne sont pas des vérités banales, mais qui sont des lieux où une pensée du monde rencontre une pensée du monde. Nous observons que quand nous énonçons, non pas une vérité, mais une idée que nous pensons être personnelle, nous nous apercevons 3, 4, 5 jours, 10 jours, un an après, qu'elle a été énoncée ailleurs, sous d'autres formes. C'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, le lieu commun, la pensée du monde qui rencontre la pensée du monde. Et mais nous n'avons pas pris encore conscience de ces rencontres, de ces flux, de ces nœuds, de ces mélanges qui se font entre sensibilités, pas seulement entre idées, mais entre sensibilités, entre intuitions dans le monde. Et il me semble que la littérature aujourd'hui, c'est l'expression même de cela. Et il nous faut apprendre à dépister cette sorte de solidarité dans la diversité, qui est ce qu'on appelle l'origine de ce qu'on appelle une littérature monde.
Est-ce que ce monde, Édouard Glissant, justement, vous l'avez toujours imaginé comme étant une seule identité ?
Non, la croyance en une seule identité n'a pas toujours été néfaste. Et elle a été nécessaire quand des communautés se sont constituées et qu'elles se constituaient en nations. Aujourd'hui, elle est néfaste parce qu'elle oppose des nations à des nations, des communautés à des communautés. Elle ne permet pas l'ouverture, elle ne permet pas le mélange, elle ne permet pas ce qui fait l'espèce de diversité du monde dans laquelle nous nous sentons bien. Mais c'est pour cela que ce qui était avant peut-être un avantage est devenu, il ne faut plus considérer le monde comme une unité. Il faut considérer le monde comme une multiplicité et il faut considérer que nous pouvons vivre avec cette multiplicité.
Et alors d'ailleurs, avec cette anthologie de la poésie du tout monde, vous avez sélectionné des poèmes de toutes origines en associant certains textes. Alors il y en a plein, hein, mais je vais en citer quelques-uns. Eschyle, René Char, Senghor, Mahmoud Darwish, Salas Tétier, qu'on connaît dans cette émission, le Libanais, Aimé Césaire, bien sûr. Et vous avez associé plusieurs morceaux de poésie différentes pour ne faire qu'un seul poème. Et vous créolisez finalement la littérature, vous créolisez la poésie, là.
Mais ce n'est pas moi qui associe. Ce sont les textes qui se sont associés d'eux-mêmes, n'est-ce pas ? Si c'était moi qui avais associé, ce serait un peu artificiel.
En tout cas, ça marche, oui, c'est ça que vous voulez dire.
Mais ça marche. Mais ça marche. Je découvre moi-même, en faisant le livre, qu'il y a des relations, des communautés, des complicités que je n'avais pas soupçonnées et qui se révèlent à moi pendant que je fais le livre.
Avec des artistes, par exemple, vous associez des poésies avec des textes de Picasso, de Mohamed Ali. Est-ce que la poésie s'enrichit, d'après vous, au contact des autres arts, au contact des artistes ?
Oui, bien sûr, mais ce n'est même pas tellement cela. S'il y a tellement de voix diverses dans le livre, c'est que nous apprenons une nouvelle manière de fréquenter les expressions des humanités. Nous apprenons que les expressions des humanités relèvent toutes d'une conception du monde. Pas tellement d'une conception, d'une intuition du monde. Et l'intuition de Picasso rencontre l'intuition d'Eschyle, rencontre l'intuition d'un poète Bambara, rencontre, etc. Mais ça, nous ne le voyons pas. Et nous commençons à le découvrir, et c'est une nouvelle manière de lire la lecture du monde.
Est-ce que vous pensez que le monde, justement, est sur le chemin de la créolisation, du mélange des langues et des cultures ? Y croyez-vous vraiment, Édouard Glissant ?
Absolument, et la preuve, c'est que partout où cette créolisation, ce mélange des cultures, mais qui n'est pas une bouillabaisse, qui n'est pas un mélange absurde où les cultures se perdent, cette diversité qui est en même temps, cette multiplicité qui est en même temps une unité d'une certaine manière, mais pas une unité fermée, pas un enfermement. Partout dans le monde où ça se fait, il y a des volontés farouches d'enfermement qui prennent ces lieux comme cible. Partout où il y a créolisation, que ce soit à Sarajevo, à Beyrouth, à Port-au-Prince, partout à la Nouvelle-Orléans, partout où il y a eu créolisation, ou bien on prend comme cible ces endroits pour les massacrer, ou bien on les laisse pourrir dans le sous-développement et la catastrophe. Et c'est bien le signe qu'on a peur. Dans le monde, les pensées uniques ont peur de ce phénomène de créolisation de mélange qui est, à mon avis, en marche et irrépressible.
Édouard Glissant, qui nous avait accordé une interview exclusive au dernier Salon du Livre de Paris pour y présenter en avant-première son livre « La terre, le feu, l'eau et les vents », une anthologie de la poésie du tout monde, publiée aux éditions Galahad, un livre qui est bien sûr disponible aujourd'hui dans tous les pays francophones. Dans un instant, on part dans le petit monde littéraire avec le roman de l'écrivain suisse Jacques-Étienne Bovard. Mais avant, voici une nouveauté musicale avec le chanteur suisse Alain Coe sur les radios francophones publiques.
La neige est éternelle, disait la vieille. Accroché à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se dit peut-être à demain. Tous pointeux sommet ta tête sur mes épaules. Et si j'oubliais que tu pleurais, tu t'es posé, reposé une fois de plus. Que deviendraient les oiseaux sans tes soupirs? Que deviendront tes envies si tu expires? Quelquefois surpris, absent, qu'en reste-t-il? Éternelle, disait la vieille. Accroché à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se retrouve.
plus loin.
Des secondes et quelques morceaux, les nuages de Bacchus nous versent encore du vin. Le bruit des chevaux nous rappelle que la diligence approche. Les vieux devenus sourds attendent l'ultime voyage vers l'ouest, toujours plus à l'ouest. Pas un jour sans que le soleil s'y couche. La neige est éternelle, disait la vieille. Accroché à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se retrouvera plus loin. Éternelle, oh, sauf quand elle fond. Accroché à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se dit peut-être à demain.
Alain Co, retour aux sources sur les ondes de France Inter, de Radio-Canada, de la Radio Suisse Romande et de la RTBF.
Je viens de passer 4-5 ans pour pondre 4-5 bouquins, j'en ai plein le dos.
La librairie francophone.
Là, vous êtes extraordinaire, vous voulez tous qu'on pond des centaines et des centaines de volumes. Oui. Allez donc faire un tour à la Nationale et vous verrez à quoi ça vous mène, cette histoire-là. Vous avez là des millions d'exemplaires, personne ne sait qui c'est, personne ne les demande jamais.
Emmanuel Kérad.
Bonjour Jacques-Étienne Bovard.
Bonjour.
Sur ces paroles de Sandra Hart, le poète suisse que vous citez notamment comme référence dans le livre. Nous allons parler de votre roman. Vous êtes un auteur suisse reconnu. Vous avez publié La Cour des Grands, édition Bernard Campiche. Vous faites une sorte de critique du petit monde littéraire en opposant les auteurs de romans de gare et les grands écrivains qui ne jouent pas donc dans la même cour. Qu'est-ce qui les différencie selon vous ?
Eh bien, évidemment qu'ils n'ont pas le même statut, qu'ils ne sont pas reconnus de la même façon. Mais l'intérêt de mon livre, à mon avis, c'était justement de montrer qu'il y a moins de choses qu'on pourrait croire qui les différencient, dans la mesure où ce qui les anime, c'est l'écriture, la recherche de l'écriture, et qu'à partir du moment où on enlève les questions de vanité, de préséance, d'apparence, on se retrouve parfois, pas toujours, mais avec les mêmes postulations fondamentales.
Effectivement, ils se retrouvent à un moment donné, de toute façon. Josiane, pour la Suisse, vous avez une question pour Jacques-Étienne.
Oui, moi je voulais d'abord signifier à M. Bovard que j'avais vu dans son roman un bel hommage à la littérature et puis j'ai beaucoup ri et de bon cœur.
Merci.
Ma question est la suivante. Avez-vous imaginé ce roman comme une sorte de mode d'emploi pour écrivain, comme une lettre à un jeune auteur ?
Ah, mais j'aime bien cette question, mais disons que je me verrais plutôt comme un mode d'emploi à mon propre usage, c'est-à-dire un usage où pour me retrouver moi-même à travers les deux figures des écrivains qui sont là, à savoir Montavon, le grand, et Xavier Chaubert, le minuscule. Et dans le cheminement que l'un et l'autre font pour se rencontrer, ou quasi à la fin, je dirais que c'est une sorte de démarche pour recoller les deux morceaux de moi-même dans mon attitude face à la littérature. Donc effectivement, il y a une sorte de mode d'emploi.
Et de morceaux de vous alors.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors on suit trois auteurs invités par Francophones sans frontières, un organisme qui fait découvrir des écrivains de langue française par le biais d'événements. Il y a effectivement Xavier qui fait des romans autour du sport, Charlène, ce sont les voyages, elle, qui l'inspirent, et Roger Borloo, un auteur de livres pornographiques. Alors tous travaillent pour la même maison d'édition, Weekend, qui pourrait d'ailleurs s'apparenter à la collection Harlequin en termes de qualité, d'impression et de produits. Le problème, c'est que les organisateurs disent s'être trompés en les invitant.
C'est ça, oui. Une erreur informatique a valu à ces auteurs dits de gare, ou de plage, ou de ce qu'on voudra, de se retrouver dans une escapade francophone dont on ne saurait trop louer les excellentes intentions.
Ça me parle, ça.
Tout irait, oui, et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible si quelques qu'un ou quelques-uns ne s'offusquaient de cette présence qui rejaillit sur eux, croit-il, comme une sorte d'opprobre.
Et celui qui refuse cela, c'est une sommité suisse.
Exactement.
Un grand écrivain nommé Montavon qui milite pour la poésie, pour la grande écriture. Il méprise véritablement ses confrères et lui, il ne tolère pas la littérature populaire. Qu'est-ce qu'il dérange véritablement, cet homme-là ?
Mais parce qu'il est, il a le sens du sacré. Pour lui, la littérature est quelque chose qui est totalement incorruptible et qui ne peut pas se mêler au vulgum pecus. Alors pour lui, l'auteur de gare, c'est un traître. Et en cela, pour créer ce personnage, je n'ai eu qu'à amplifier mes propres conceptions de la littérature, parce que j'ai en moi cette espèce de passion qui ne veut pas transiger et qui veut que le texte soit sacré, comme la musique ou la peinture. Mais d'un autre côté, j'ai aussi en moi le goût de la palabre, du récit facile, du mot qu'on fait dans le quotidien avec tout le monde, et du partage, comme on parlait tout à l'heure, de cuisine. Partager. Et ces deux choses existent en moi et je n'arrive pas toujours à les concilier. C'est pour ça que je les ai amplifiées dans un sens comme dans l'autre.
Mais on peut perdre le lecteur aussi.
C'est un risque à prendre.
Système trop élitiste.
Oui, effectivement. Mais je pense que celui qui part dans un système élitiste, il se préoccupe peu de perdre le lecteur. Il veut aller jusqu'au bout de quelque chose qui, pour lui, est sacré, quitte à ce qu'il n'y ait pas un seul lecteur.
Oui, c'est une quête personnelle.
C'est une quête personnelle. Et quand on est parti là-dedans, on va jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte.
Maintenant, pour le Canada, vous voulez intervenir.
Ah oui, Emmanuel, parce que j'étais vraiment passionnée par ce livre-là. Je trouve que quiconque s'intéresse à la littérature ou même au monde des écrivains va être captivé par le roman. L'écriture est magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de termes que je ne connaissais pas, mais j'ai apprécié la musique aussi. Je dois avouer que le débat littérature contre paralittérature, là, ben, je l'ai trouvé tout à fait passionnant. Et je le trouve d'autant plus intéressant que Jacques-Étienne Bovard est un vrai littéraire et qu'il sait habilement se positionner là, des deux côtés.
Êtes-vous des deux côtés, Jacques-Étienne Bovard?
Oui.
Quel genre de littérature produisez-vous, tiens?
Alors, moi, je sais pas. Oui, je produirais plutôt une littérature que je considère comme exigeante, même si elle a des apparences désinvoltes parfois, parce que j'aime mêler les genres. Et dans ce livre, je me suis plu à présenter un style très académique à travers un professeur d'université, un style emphatique, pamphlétaire avec Montavon, et puis un style populaire, enfin un style parlé à travers les autres personnages, comme Borloo notamment. Parce que je trouve que ça doit coexister, que c'est ce qui fait les bons plats, enfin les bonnes rencontres aussi.
C'est vrai, ouais.
Et de ne pas s'isoler, s'enfermer dans un type de discours. Et puis je me suis régalé à écrire cette histoire qui m'a fait rire moi-même à travers toutes sortes de styles que j'aime pratiquer.
À un moment, dans une librairie, il y a un débat autour de la littérature suisse, définie comme étant une culture plurielle, unie à l'écart du cercle parisien, reconnaissable, je cite, aux marques du terroir. Oui. Mais Montavon, lui, il dit « Nous ne sommes pas des écrivains romans, nous sommes des rebelles, des inventeurs, des conquérants. » Il va poursuivre en affirmant « La seule famille où nous nous retrouvons, notre seule patrie, est cette langue française. »
Mais il a totalement raison. Pour nous, les romans, notre patrie intellectuelle, elle est formée d'abord par la langue française que nous apprenons avec nos parents, puis à l'école. Et nous l'apprenons souvent avec beaucoup de respect, même parfois beaucoup d'excès dans le respect, parce qu'on a toujours gardé un peu ce complexe de nous autres, les petits Suisses, qui parlons moins bien, plus lentement, avec des accents épouvantables par rapport aux Français. Donc il y a une sorte de révérence vis-à-vis de la France, que d'ailleurs je ne renie absolument pas et dont je suis fier, de la pratiquer, et cela pourrait empêcher l'expression de quelque chose d'authentique.
Oui, mais pourtant, vous parlez du terroir.
Oui.
Dans vos livres, en général, vous vous êtes fortement inspiré des mentalités suisses, des paysages, de certaines de vos passions, la pêche, les rivières, et cela peut-être au risque d'écarter parfois le lecteur, qui n'est pas suisse ou qui n'est pas passionné par vos propres.
Mais je le crois de moins en moins, parce que quand je fais des lectures en France, souvent en France voisine, comme ça, ou que j'ai des lecteurs au-delà des frontières, je vois très bien, comme le disait tout à l'heure à madame, il y a des mots qui lui échappent, mais ça ne l'a pas empêché d'aimer le livre. Quand vous lisez Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, il y a à peu près 600 mots qui vous échappent.
Ah, mais des mots qui nous échappent,
mais
ça, d'accord.
Totalement. Et puis
une ambiance, c'est
génial.
Autre chose.
Mais c'est ça.
Et une ambiance et une passion, c'est autre chose.
Ouais. Mais je ne pense pas que d'utiliser tel ou tel vocabulaire, à moins d'en faire trop, ou vouloir faire du régionalisme, je ne pense pas que ça empêche un message de passer.
Quand on parle du terroir, on n'est pas régionaliste pour vous?
Non, je ne crois pas.
Déborah, pour la Belgique.
Moi, tout au long de la lecture, je me suis sentie partagée. En même temps, j'ai beaucoup apprécié l'humour et les dessous de la vie des auteurs et tout ça. Et pourtant, j'ai quand même peiné à m'attacher au personnage et j'ai trouvé ce texte un peu long et avec sans cesse cette impression de connivence et d'allusion dont je me sentais exclue. Pas tellement au niveau du vocabulaire, hein, mais plus dans l'absolu. Alors, il faut peut-être que j'aille passer des vacances en Suisse pour mieux comprendre.
En tout cas, c'est vrai, Jacques-Étienne Bovard, que vous êtes dans une forme de démonstration. Au final, on ne va pas tout raconter, bien sûr, mais on s'aperçoit que c'est quand même les hommes de lettres, les intellectuels qui prennent le pas. Votre conclusion est-elle que la littérature sombre dans une forme de médiocrité lorsqu'elle s'adresse dès le départ, dans l'intention de départ, au plus grand nombre ?
Non, pas du tout. Alors,
Parce que c'est ça, le roman de gare, hein, c'est qu'on essaye de rassembler le plus de monde possible.
Disons que le roman de gare cherche à vendre une histoire dans le plus grand nombre possible. Mais disons, ici, on a quand même l'exemple de quelqu'un qui est venu à la littérature à travers le roman de gare parce que c'était la chose la plus accessible pour lui dans son jeune âge. Et puis, sitôt qu'il est au contact, cet innocent, avec la littérature plus avertie, eh bien, là, il va changer. C'est donc un roman d'initiation. On passe d'un état d'écriture ou d'une certaine facilité à une exigence plus haute. Et c'était ça qui m'intéressait.
Merci beaucoup Jacques-Étienne Bovard. La Cour des Grands est paru aux éditions Bernard Campiche, un roman distrayant qui pose un regard sur le cercle littéraire parfois très fermé, mais qui ne demande qu'à s'ouvrir bien sûr, et c'est peut-être un peu le rôle de chacun. Merci Jacques-Étienne, à bientôt.
Merci.
C'est l'histoire en fait d'une petite fille.
C'est un album qui est raconté sous forme de
livre qui est une magnifique
trois textes qui ont été qualifiés de longs poèmes en prose.
On termine cette émission avec la deuxième partie de la chronique des libraires. Josiane, pour la Suisse, on parle d'un manifeste d'économistes atterrés. Et c'est un essai, bien sûr.
Oui, c'est un joli petit guide pratique et éclairant sur les raisons de la crise économique et 22 propositions pour en sortir et tenter un nouveau modèle économique, rien que ça. Ces économistes atterrés partent du constat que, bien que le système néolibéral actuel, ait clairement montré ses failles, il n'est nullement remis en cause. Par ce manifeste, ils souhaitent que le monde économique et plus largement l'entreprise ne soit plus l'apanage d'une cour d'initiés, mais redevienne un débat démocratique pour que l'économie serve les citoyens et pas uniquement les actionnaires.
Manifeste d'économistes atterrés aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup Josiane. On termine avec le Canada. Manon Trépanier, on part à Paris avec vous. C'est un peu paradoxal, mais c'est un beau livre paru au Québec, Manon.
Effectivement, Emmanuel. C'est écrit par Christine Brouillet. Vous savez, ici, c'est une star, Christine.
Ah oui.
Brouillet. Elle connaît bien la ville Lumière pour y avoir vécu 12 ans.
Elle écrit des polars aussi, notamment.
Elle écrit, effectivement, et puis c'est une grande gastronome, hein, entre autres. Elle a déjà d'ailleurs publié un guide sur Paris, mais cette fois-là, c'est comme amoureuse de la ville là, qu'elle nous convie, quartier par quartier, à découvrir à la fois l'histoire, l'architecture et tout ce qui fait de Paris la ville la plus visitée au monde. Vous savez, ce qui est original dans ce livre-là, c'est qu'elle compare la ville à un escargot, non seulement pour la forme, mais aussi pour le côté hermaphrodite, hein, un côté masculin, un côté féminin, une rive gauche, une rive droite, enfin...
Et il faut y a beaucoup de sexe aussi à Paris, il faut savoir.
Écoutez, sinon j'aimerais pas autant la ville.
Évidemment. Lâchons-nous après tout ce qu'on a dit aujourd'hui.
Mais il faut rajouter, Emmanuel, que les aquarelles, qui, après tout, c'est un très, très beau livre, hein, sont de Jean-Guy Meunier et qu'elles sont magnifiques. On voudrait toutes les encadrer le temps. Elles sont porteuses de magie et de charme.
Eh bien, écoutez, découpez le livre. Carnet de Paris aux éditions Les Heures Bleues. Merci beaucoup, Manon. Merci à tous nos libraires dans les pays francophones. Au revoir à tous.
Au revoir, Emmanuel.
Quelle énergie. Bonne semaine à vous en Suisse, en Belgique, en France, au Canada et à travers le monde. On se quitte sur cette musique du trompettiste martiniquais Jacques Courcil, inspiré par les poèmes d'Édouard Glissant. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur franceinter.com et je vous retrouve comme d'habitude sur Facebook pour communiquer avec vous. À la réalisation, Anne Weinfeld avec Éric Mainviel, Muriel Pérez à la programmation musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret, Lise Lafargue en France, Martine Béguin-Felet avec Sylvie Tanet en Suisse, René Miquil, c'est Valérie Lepute en Belgique, Claude Godin avec Elsa Pépin au Canada. La semaine prochaine, nous parlerons notamment des événements en Égypte avec deux livres de photographie et l'écrivain Gilbert Sinoué. Bon week-end à tous.
Les grands chaos s'en sont venus.
Un grand chaos sont sur la place.
Les grands chaos s'en sont venus. Les grands chaos s'en sont venus. Les grands chaos sont sur la place.